liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 50 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, petit comité, on n'est que deux, pas de Nicolas ce soir. Le sommaire.
Alors, sommaire usuel, hein, j'arrive à sélectionner toujours un nombre autour du nombre d'or 7. Mais je viens faire remarquer beaucoup, beaucoup d'articles remontés, notamment à cause des brevets. Ça fait mal au cœur, mais on va vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer. On va aller voir Belle-Île en Terre, on va vous parler un petit peu d'éducation nationale, les hippies et un long article des plus intéressants, on reparle d'Ubuntu et de Richard Stallman, les big data, les brevets américains et le brevet unitaire européen qu'on garde en plat de résistance à la fin.
Ouest France, Infothéma pour découvrir les logiciels libres Belle-Île en Terre, un article de la rédaction.
Petit article sympa qui présente voilà, une association, des activités qui se passent en région, donc à Belle-Île-en-Terre. Je sais pas, tu connais Belle-Île-en-Terre, toi ?
Absolument pas.
Pas encore ?
Et non. En tout cas, bon voilà, manifestement, il y a un Luc assez actif là-bas, donc bravo à eux. Et voilà, qu'un relais dans la presse locale. C'est très bien. PC Impact, les projets numériques du gouvernement pour l'éducation nationale, un article de Xavier Berne.
Alors, un article en négatif. Est-ce que tu sais ce que je veux dire par négatif ?
Oui, parce qu'en fait, il y a... À aucun moment, dans l'intervention et ce qui a été dit par l'éducation nationale, il ne parle de logiciel libre.
Ce qui est quand même amusant, hein. C'est un article qui exprime, voilà, et qui nous intéresse parce qu'ils disent, attention, ils n'ont jamais parlé de logiciel libre. C'est un peu original.
Voilà, c'est le bilan, une des conclusions de l'article. Bon, pour le reste, il parle un petit peu de ce que dit le ministre qui met l'accent sur la formation des profs pour utiliser l'informatique et le numérique à des fins pédagogiques en disant que les écoles sont déjà largement équipées. Et bien souvent, ça dépend des départements ou des communes en fonction du type d'établissement. Et qu'en revanche, on n'a pas vraiment formé les profs à l'utilisation pédagogique de l'informatique.
Oui, moi je le vois quasiment comme une caricature, hein, et il en parle, et il explique, voilà, il y a des classes où on a un vieil ordinateur dans un coin, ou plus, mais des choses inutilisées, quasiment inutilisables, parce que il n'y a pas les gens pour les prendre en main. Donc j'en déduis effectivement que leur travail, c'est sur les enseignants, l'intermédiaire indispensable. Bon, on va voir ce que ça donne.
Voilà, on sait que dans le domaine de l'éducation nationale, c'est très partagé, il y a des trucs qui sont vraiment à fond pour le libre, avec des enseignants ou des structures qui sont très libristes, et en même temps du lobby du propriétaire, notamment de Microsoft, qui est très fort, donc c'est très ambivalent.
Ouais, j'espère qu'ils vont travailler dessus, peut-être se rapprocher de tout ce qu'ils ont parlé pour les universités, les fac labs, les choses comme
voilà,
ça.
Mais en tout cas, avec la circulaire Hero dont on a abondamment parlé ces dernières semaines, on aurait peut-être pu espérer que ce soit intégré dans leur démarche. OVNI, Internet, c'est un truc de hippie, un article de Laurent Chemla.
Alors Laurent Chemla, il est super connu dans le milieu Internet, notamment il a écrit tout un article, tu te rappelles du titre ?
Un livre même, qui s'appelle Les Confessions d'un voleur, qui donnait suite à un article. Laurent Chemla, c'est vraiment un des pionniers d'Internet en France, commencé vraiment très très tôt, et il s'était distingué à l'époque en cassant le marché des noms de domaine, hein, puisque c'était vendu une fortune et lui avait automatisé tout ça, et il avait écrit justement cet article plus ce livre... avec l'idée d'être un voleur, en disant que même en ayant automatisé tout ça, il continue à gagner beaucoup d'argent très facilement, il trouvait ça assez indécent.
Et donc là, un long article, et j'hésiterai pas à le dire, c'est un article à lire, parce qu'il nous parle, il parle de choses vraiment intéressantes, il parle notamment de l'histoire d'Internet et de la manière dont il a été construit, d'où la référence au hippie.
Tout à fait, et on retrouve des thèmes qui ressemblent à ceux de Benjamin Bayard sur... le Minitel 2.0, article, il faut 10 minutes pour le lire, donc c'est un long article, mais c'est pas l'enfer non plus, donc allez-y.
Oui, et puis en plus, la mise en page OVNI est vraiment agréable, parce que l'article est sur d'autres endroits, hein. Il y a d'autres sites, des blogs, et là, vous avez les petites photos qui sont assez sympas, avec des petits encarts, il y a toujours vraiment un gros travail d'édition qui est derrière, et puis le contenu est vraiment fun. Moi, j'adore cette attaque sur les structures pyramidales, hein, qu'on a déjà relayé de nombreuses fois, le fait que voilà, Internet, c'est décentralisation, Internet, c'est une époque, et on hérite de cette époque, hein. Il le cite, il le dit, c'est les années 68, en gros, et les hippies, c'est eux qui ont construit Internet, c'est eux qui nous ont offert ça, et à une autre époque, avec d'autres personnes, on aurait eu un autre réseau, pas de la même nature, et aujourd'hui, il conclut avec, il y a toujours un gros travail, il faut se méfier, notamment des États, mais aussi, peut-être même plus.
Surtout parce qu'il dit en fait que les États sont franchement la ramasse, mais qu'aujourd'hui, le danger, il est en interne, et que la simple position de fournisseur d'accès, en fait, c'est une sorte d'incartade au principe d'Internet qui est censé mettre les ordinateurs en réseau, et que quand on dépend d'un fournisseur d'accès, bah, notre ordinateur n'est pas en réseau, il est à distance d'Internet, et quelqu'un nous vend un accès à Internet, mais on n'est pas réellement sur Internet, et que du coup, ces gens-là, on pense à l'attaque sur la neutralité du net, et notamment avec l'histoire de Free, de YouTube actuellement, par exemple, mais d'autres choses dans le genre.
Oui, où ils ont bloqué un peu la bande passante, ça s'est débloqué, il semblerait.
Oui, mais bon, voilà, donc ce sont des acteurs qui sont en position de limiter, contrôler votre accès à Internet, le nôtre, et donc c'est pas bon du tout, surtout que bah, ils peuvent avoir tout à fait intérêt et gagner beaucoup d'argent à ça.
Oui, je rappellerai, votre connexion Internet est vraisemblablement asymétrique, c'est pour ça qu'on dit ADSL, et donc vous pouvez consommer, mais beaucoup moins, ou en tout cas c'est tellement peu encouragé, produire, alors que justement Internet c'est un monde où on peut produire et consommer, et à égalité, hein, y a pas de limite.
Voilà, donc allez lire cet article, ce sera toujours mieux que d'écouter notre résumé un peu bancal. Programmer.com, Richard Stallman, Excommunie Ubuntu, un article de Frédéric Mazuet.
On en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui reviendra sûrement. On a notamment commenté le Framablog qui avait traduit l'article original de Richard Stallman. Et là, c'est un petit peu les retombées médiatiques, parce que bah, il y en a, et je pense qu'il y en aura d'autres. Bah, Stallman, il excommunie, enfin, c'est notre gourou, hein, là, il est en train de taper sur la grosse distribution dont on parlait depuis des années.
Donc il demande aux libristes de ne plus faire la promotion d'Ubuntu et donc de la présenter comme une distribution qui espionne ses utilisateurs. Donc c'est effectivement une excommunication, hein. En gros on ne parle plus d'Ubuntu comme une distribution libre vraiment, et il y a des trucs qui ressortent, hein, qui existent depuis longtemps, qu'il a gardé sous le coude, notamment que dans Ubuntu, dans l'application qui permet d'installer d'autres applications, on a mélangé du logiciel libre et du propriétaire.
Oui, il n'y avait pas vraiment de notion de licence, il me semble, qui était affichée, plutôt des notions de prix.
Et que bah, le payeur était plutôt payant et propriétaire était plutôt mis en avant, donc déjà ça fait un petit moment que ça existe, ça a énervé, donc manifestement Stallman a décidé de taper fort.
Je rappellerai, hein, on utilise les termes excommunie et moi je parle de gourou, c'est Stallman, hein, qui se moque de lui-même en se présentant comme un gourou, mais un faux gourou bien sûr, parce qu'on n'est pas vraiment dans ce domaine-là, et forcément la liberté n'encourage pas normalement le milieu sectaire, n'est-ce pas?
Alors il faut noter que sur la version française, la communauté Ubuntu a fait une version avec un ballot screen, donc une sorte de petite fenêtre à l'installation qui permet ou non de mettre en place ce système, hein, on le rappelle. Donc c'est un système où vos recherches sur les moteurs de recherche, enfin à l'intérieur du système, donc quand vous allez chercher des fichiers ou des logiciels, etc., vont envoyer des informations à Canonical. Donc, qui est la boîte qui a créé Ubuntu, et ces informations sont revendues à Amazon. Et donc voilà, donc la communauté francophone a fait un truc qui vous permet de choisir ou non d'avoir ce système en place. Donc c'est un pis-aller, et bravo à eux en tout cas pour avoir fait ce système-là. Développer.com, adoption des big data, ce n'est que le commencement, selon Talent, qui analyse cette nouvelle tendance. Un article de la rédaction.
Alors, encore un article d'une boîte. Hein.
Oui, un article de pub, je ne te félicite pas Manu. La oui, source est un communiqué de presse de Talent. Donc,
je vais peut-être un peu plus filtrer ce genre de choses-là, effectivement. Donc, bah, ça n'empêche, hein, on peut rappeler que, effectivement, les entreprises françaises, elles font un gros travail de communication. Hein. On a un article qui le montre. Et eux, leur travail, leur motto, c'est de dire, voilà, vous voulez optimiser ce que vous faites dans vos entreprises, vous voulez travailler mieux, être plus performant, être plus innovant. Le libre va vous fournir des solutions. Hein. Et puis, nos entreprises, bien sûr, vous en doutez, des entreprises comme Talent.
Voilà, donc bah, c'est un article qui est issu de la publication d'un rapport qu'ils ont fait. Si le sujet vous intéresse, allez le lire, mais en ayant bien conscience qu'il s'agit d'un travail de Talent qui, bien sûr, met en avant leur prestation dans le domaine. Lemonde.fr, le système de brevets américains largement détourné par les trolls, un article de la rédaction.
Alors les trolls, ce sont de méchantes bêtes qui vous attendent quand vous passez sur un pont pour vous rançonner.
Voilà, c'est une expression utilisée en Amérique du Nord, les patent trolls, donc les trolls de brevets. Donc ce sont des entreprises qui ne sont pas, à proprement parler, des entreprises informatiques. Ce sont des entreprises qui vont déposer ou racheter des brevets.
Voire même qu'on crée pour y placer des brevets. Hein. Y a des géants qui créent ces entreprises-là juste pour leur donner des outils pour ensuite attaquer d'autres entreprises.
Et oui, là où ça pose problème, c'est que ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour protéger leur production et leur logiciel comme le brevet est censé le permettre.
Bah oui, parce qu'ils produisent rien.
Et oui, et c'est juste bah, gagner de l'argent en allant rançonner les PME essentiellement, ou comme on l'a là dans les guerres Apple, Google, Samsung, etc., mettre des bâtons dans les roues de la concurrence.
Oui, hein, c'est un gros foutage de gueule. C'est un blocage pour plein de gens qui essayent de travailler sans forcément avoir à penser j'ai un avocat qui va venir taper à ma porte et qui va me demander des dizaines de milliers de dollars. Et ça encore, je suis gentil, hein, c'est pour les petites boîtes parce que derrière, vous êtes une machine à sous, donc ils vont essayer de taper au plus haut et ils vont vraiment vous bloquer. Ils peuvent aller en justice, ils peuvent essayer de faire en sorte que vos produits ne soient plus distribués. Ouais. Ça peut aller loin.
Voilà, et l'article avance quelques chiffres intéressants. Qui dit qu'au 1er décembre, 61% des procès pour violation de brevets ouverts aux États-Unis l'ont été par des trolls, donc des entreprises qui font du bénéf sur le simple fait de faire du procès.
Des entreprises d'avocats, je rajouterais.
Voilà. Et en ce qui concerne les PME, les start-up, etc., on est entre 20 et 35% des PME qui ont eu des problèmes.
Des start-up, oui, des start-up qui se lancent.
Ont été attaqués sur des questions de brevets, donc c'est loin d'être négligeable. Et on voit tout l'effet négatif que ça peut avoir.
Je crois qu'il y a une proposition qui avait été intéressante là-dedans, mais qui ne résout pas complètement le problème, c'était de faire en sorte que ces entreprises, quand elles perdent, elles doivent payer plus que ce qu'elles ne payent actuellement, notamment elles doivent payer les frais des entreprises qui se sont défendues. Alors, on en parlait à part, effectivement, ça ne résout pas le problème. Pendant des années, vous allez être harcelé par des équipes d'avocats dont c'est le boulot. Et déjà, si vous arrivez à vous défendre contre ça, bonne chance, ouais, ça va vous coûter.
On sait que c'est suffisamment compliqué de lancer une entreprise, une activité, et quand son boulot, c'est de faire du logiciel, de le vendre, en tout cas de faire du business là-dessus, on n'a pas nécessairement le temps de se coltiner une procédure pendant 2 ans, dans le meilleur des cas. En France, on est en général sur des procédures encore plus longues. Et pour peu qu'il y ait des trucs bloquants qui nous empêchent de faire ceci, cela, en attendant une décision de justice, si la décision elle tombe 2 ou 5 ans plus tard, on a tout perdu de toute façon. Et le remboursement des frais, ça va rendre l'activité moins rentable peut-être. Mais franchement, ça ne résout pas le problème, pas complètement.
Oui, hein, ça reste ridicule. Je rappelle, on est protégé contre ces patent trolls. Heureusement, en France, en Europe, on n'a pas tout ça, n'est-ce pas ?
Plus pour très longtemps, puisque article de PC Impact, les eurodéputés adoptent le brevet unitaire européen, article de Marc Ries. Donc c'était notre inquiétude de ces derniers mois, et voilà, c'est passé, on l'a plutôt mauvaise. Le brevet unitaire a été adopté par le Parlement européen.
Donc je vous rappelle en quelques mots, le brevet unitaire c'est pas forcément en soi quelque chose de mauvais, c'est un moyen pour que les entreprises payent moins cher et plus facilement et plus rapidement leur brevet. Donc un monopole sur une invention, c'est juste que il donne beaucoup de pouvoir à un organisme qui devient un organisme international, ou qu'il l'était, je sais pas d'ailleurs,
l'OEB. Qu'il était déjà, oui.
Qu'il était déjà, donc l'Europe lui transmet un peu de son autorité, un peu de ses pouvoirs, et on sait que traditionnellement, historiquement, l'OEB a accepté des brevets sur les logiciels, quasiment inutilisables d'un point de vue légal, mais en tout cas qui sont là, par dizaines de milliers.
Voilà, comme c'est eux qui vont, dans ce principe-là, également trancher les litiges, bon, tout intérêt évidemment à reconnaître les brevets qu'ils ont transmis. On se souvient là il y a 2 semaines je crois que les syndicats de l'EEB, enfin des salariés de l'EEB,
ouais, c'était comique quand même.
Voilà, se retournaient sur le fait de sur le reversement de bénéfices en disant que ça allait favoriser le fait que les salariés acceptent tout et n'importe quoi comme brevet.
Oui, je crois qu'il était question de milliers d'euros, hein, 4 000 euros ou 7 000 euros, je ne sais plus.
4 000 euros environ par salarié sur l'année, mais peu importe. Ça montre bien que cette structure est complètement ambiguë, en dehors des clous et non contrôlable. Hein. C'est un truc privé, un machin international, c'est pas en dépit du nom que ça porte. Ça n'est pas une institution européenne. Donc on a l'espoir que du point de vue juridique, ce truc s'écroule.
Parce que c'est un peu l'attente, notamment Gibus, un autre expert qui a fait une grosse tête là-dessus, vous pouvez imaginer. Il m'a remonté plein d'articles pour aller voir en article secondaire. Et lui, il a cet espoir et il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de procédures contre l'adoption de ce brevet unitaire, notamment de pays un peu limitrophes qui n'ont pas leur langue dans les langues
l'Espagne,
acceptées.
L'Espagne, l'Italie.
Ouais, ils font un peu la tête, il faut avouer. Et puis tout simplement, ça va permettre les patent trolls. Il y a des entreprises qui se remontent un peu contre ça, qui voudraient que simplement on mette des lois plus logiques et plus justes. Hein. Je crois que la CJUE va peut-être avoir son mot à dire.
On verra ça. Bon, merci. Et
à la semaine prochaine.
Ça va être compliqué avec Noël, mais on va voir.
On va voir.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.